Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Arrivée devant la porte de son immeuble, elle s'était promis de ne plus faire de la fuite un fantasme, quitte à se faire violence. Et puis, tout de suite après, rien qu'à l'idée, elle avait frissonné. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Marcia Burnier, à l'occasion de la publication de son roman « Hors d'atteinte » aux éditions Cambourakis. C'est parti. Bonsoir Marcia.
Bonsoir.
On a la grande chance que tu sois le tout premier épisode du podcast ever. Ouais. Donc l'Affranchi Podcast a démarré avec toi suite à notre rencontre sur Les Orageuses, donc ton premier roman. Mm-hmm. Les choses étaient bien faites.
Que des premières fois.
Mais oui, c'est ça. Je suis vraiment touchée que tu reviennes. Ça me tenait fort à cœur, d'autant qu'on avait adoré Les Orageuses, qu'on continue à les vendre énormément, et qu'à un moment donné, sans pression au moins, on se demandait un petit peu ce qui allait suivre. Ce qui a suivi, ce qui suit, c'est Hors d'atteinte, donc ton nouveau roman chez Cambourakis, et qui, on se le disait, pouvait d'une certaine manière être lié aux Orageuses, et ça, ça fait plaisir. Parce que bah, parfois, en fait, les œuvres sont extrêmement différentes, et c'est OK. Mais en tant que lectrice, lectrice, quand on voit les clins d'œil, les petites choses qui ont pu passer d'un livre à l'autre, ça nous récompense, en fait, d'une certaine manière, de suivre, en fait, le travail des autrices, et on se dit « Ah mais oui, mais ça, je reconnais. » Il y a quelque chose d'une intimité qui se crée plus facilement, peut-être aussi avec les personnages. Donc, Hors d'atteinte, tu l'as laissé venir à toi, tu l'as, parce que on se le partageait souvenir à l'époque de ta première venue, un second livre, c'était pas si évident que ça.
Non, et surtout, moi, je voulais, ce que j'avais dit à Swazik, c'était « je veux plus parler de violence ». Après Les Orageuses, donc j'avais dit « oui, bah, j'écrirai peut-être un livre, mais en tout cas, ça parlera en tout cas pas de violence ». Alors, je vais te dire que le sujet, hop, et du coup, tu m'avais dit « ben, tu verras ». Et vraiment, je m'étais dit « non, mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ?» Donc, il me vient... En fait, ça se passe d'une manière très capitaliste. C'est-à-dire que après la sortie des Orageuses, je me dis, il va falloir demander des thunes pour continuer à écrire, donc faire des demandes de bourse et de résidence. Pour ça, il faut un projet, parce que vous savez, on est dans ce monde de projets. Et donc, je me dis, bon, je vais inventer un projet, parce que c'est comme ça qu'en fait beaucoup d'entre nous font. Et donc, je me dis, bon, je vais écrire. Et là, je fais un peu un projet d'un truc qui a pas grand-chose à voir avec Hors d'atteinte. Et je me dis, ouais, je suis hyper inspirée, ça va être ça, un groupe de meufs qui part faire de la résistance en montagne, enfin voilà. Et au fil du temps, donc j'obtiens une résidence, je commence à travailler, et puis ça s'affine. Puis je me dis, bon, en fait, peut-être quand même que je vais travailler sur les violences, mais je vais faire un roman policier. Non mais moi j'ai des idées, voilà. Et donc je vais faire un roman où il y a deux voix. Et il y a une fille qui disparaît et une personne qui va la chercher et qui, par sa recherche, met en lumière le fait que tout le monde s'en foutait. Et donc, je commence à me dire, voilà, ça va être ça mon roman. Je commence ma résidence, j'écris, tout ça. Et à ce moment-là, je fais partie d'un groupe d'auteurs, bref, avec qui on se relie des trucs, qui me disent, mais c'est marrant, hein, tu dis qu'il y a deux personnages, mais t'as déjà fait genre 6 chapitres et il y a toujours le même. J'étais là, non mais ça va arriver, ça va arriver. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont été très patients avec moi, mais ils m'ont dit, mais peut-être que si ça arrive pas, c'est qu'il faut qu'il y ait qu'une seule voix. Voilà, donc on est arrivé comme ça. Et tout d'un coup, c'est apparu. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, je vais écrire là-dessus. Et je vais écrire comme ça, et ça va être ça. Donc c'est vraiment des détours pour arriver. C'est pas du tout un sujet qui m'est tombé dessus, où je me suis dit, oh, inspiration, parfait. Mm-hmm. Et c'est tombé, mais voilà.
Mais ce qui est... et d'autant plus super ici, c'est que tout comme les orageuses, en fait, tu as une histoire principale, mais qui va être beaucoup plus que juste une histoire. C'est-à-dire que dans la littérature de fiction sur nos engagements, sur les féminismes, moi, ce qui vraiment m'intéresse le plus, c'est ce moment où, en fait, de nos violences, des oppressions, de ces rapports en fait terribles qu'on peut vivre dans la société, on va trouver en fait différentes façons de montrer nos forces. Parce que donc dans Les Orageuses, on avait ce principe d'une collective qui se mettait en place dans un but premier qui était une vengeance, mais ce serait très court que de réduire les orageuses à ça. Il y a tellement de choses qui gravitaient autour. Et quand j'ai lu Hors d'atteinte, je me suis dit, oui, c'est un roman sur l'emprise, c'est un roman sur une fuite, mais en fait, c'est surtout un roman sur la peur, sur quelque chose... Enfin, et ça, c'est la chose qui m'est venue, mais... Et tu en parles évidemment beaucoup, hein, je n'invente rien moi toute seule. C'est que tu as une intuition... Je trouve vraiment, et c'est ce terme-là m'est venu tout de suite, c'est il y a une intuition, en fait, de ce dont nos combats ont besoin dans tes livres à chaque fois, et qui me touche, mais vraiment beaucoup. Parce que je me dis, tu vois la grande image. Tu vois plus loin que ce qui nous arrive, en fait. Tu te dis, mais oui, ça nous arrive. Check, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et dans la fiction, c'est peut-être politiquement, en fait, ce qui est le plus bouleversant, en fait, de se dire que tu peux... nous apporter, en fait, un backup émotionnel plus large. Voilà.
Bah, c'est hyper flatteur, hein, merci beaucoup. Mais je pense que... Je suis pas sûre que moi, j'arrive à l'écriture comme ça, dans le sens, aussi directement, dans le sens où... Je crois que moi, dans Les Orageux, c'était aussi présent, mais là, c'était d'autant plus présent. Je me disais... Oui, je veux écrire sur les violences, mais par contre, je n'écrirai pas les violences. Cette histoire-là... pour des raisons qui me concernent. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai un point de vue sur écrire les violences, est-ce que c'est bien ou mal? Pas du tout, je trouve qu'il y a des choses qui sont super, qui ont été faites. Vraiment, ce n'est pas un point de vue dans ce sens-là. Mais par contre, moi, ce n'était pas ça que j'avais envie d'écrire et que je ne voulais pas que ça soit central. Et donc, je me disais, bah, ce qui est intéressant quand même, moi, en tout cas pour moi, d'aller explorer, c'est qu'est-ce qui se passe bien après et pas juste après. Et pas, par exemple, je me disais, j'ai envie d'écrire une histoire de fuite, mais moi, ce qui m'intéresse, là, dans cette histoire, c'est pas la fuite du conjoint violent. Donc, elle va... En fait, l'histoire, c'est vraiment, c'est la personnage principale, elle va le quitter, elle va aller se trouver un appartement à Paris, c'est pas cette fuite-là. En fait, la fuite qui va... Enfin, l'événement qui va la décider à partir et à s'isoler, c'est plutôt qu'elle se sent seule... que son entourage est juste absolument absent, que ça se passe très mal, et qu'elle sent cette solitude-là et qu'elle a envie d'aller faire l'expérience physiquement, en fait, d'aller réellement savoir qu'est-ce que c'est être seule. Et je me disais, bah voilà, ça c'est quelque chose que je trouve qui arrive à bon nombre d'entre nous, cette solitude-là, après les violences. Et en fait, souvent, elle est moins traitée. Probablement des livres que j'ai pas lus, qui ont traité de ça et tout, mais en tout cas, moi, c'était un aspect que j'avais envie de dire, bah, en fait, on nous laisse un peu tomber, et qu'est-ce que ça produit? En fait, ça produit des dommages sur un très long terme, et qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça? Donc, je pense qu'il y a déjà cette partie-là, et puis, il y a aussi le fait que, donc, Les Orageuses, j'ai fait beaucoup de rencontres, et au bout d'un moment, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai envie de transmettre maintenant, c'est de dire le collectif, ou la collective, c'est super et c'est hyper important. Et moi, Dieu sait que ça me porte et ça m'a porté, ça m'a sauvé, etc. Mais en fait, ça ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, je pense qu'il faut faire l'expérience de tenir debout sur ses jambes, enfin, en tout cas, se sentir solide. et se sentir solide sans l'aide, en fait, d'autres. De fait, parce que l'entourage peut pas toujours être là, parce que des fois, il est défaillant, parce qu'il est fatigué, parce que c'est pas forcément malveillant, mais ça peut. Et que moi, en tout cas, je suis quelqu'un, voilà, full disclaimer, j'ai détesté la solitude pendant très longtemps, jusqu'à il y a vraiment peut-être 3 mois. Voilà. Et du coup, je pense que j'ai aussi fait l'expérience de la solitude à travers ce livre, alors que pour moi, c'était impensable. Je veux dire, j'ai vécu en coloc de mes 18 ans jusqu'à mes... Là, j'ai 37, jusqu'à mes 35. Enfin, voilà. Et quand je vous dis en coloc, c'est dans des énormes colocs. J'ai eu un truc de besoin de remplir. Voilà, j'ai fait partie de beaucoup de collectifs et tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si elles, en vrai, sont plus là parce que ça peut arriver. Est-ce que tu t'effondres ? Enfin, voilà, j'ai un peu ce truc, vous savez, le vendredi soir où on est stressé parce qu'on n'a rien et on se dit, mais est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne si je vois personne ? Enfin, voilà. Donc, je suis arrivée, j'ai écrit... Moi, j'ai fait un peu tout dans l'inverse. J'ai écrit ce livre et puis ensuite, j'ai pris un chien et ensuite, j'ai essayé d'être seule. Donc, j'ai vraiment écrit un livre d'anticipation, quoi. Je me suis dit, bon, on va voir et tout ça. Et voilà, et je pense que ça, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Après... Là, je vous dis ça avec beaucoup d'assurance, mais je crois que, par exemple, une des discussions éditoriales qui s'est posée avec mon éditrice et... mais même, je me la suis posée aussi, c'est à force de pas vouloir décrire les violences, en fait, vous vous retrouvez quand même avec deux groupes dans les lecteurs et les lectrices, ceux et celles qui comprennent ce dont on parle, parce qu'en fait, elles ont pas besoin d'avoir beaucoup de détails. En fait, elles reconnaissent quasi systématiquement. Et les personnes qui, du coup, vont passer à côté de cette question. Moi, voilà, ça m'est arrivé hein, qu'on décrive le livre en disant « Voilà, la personnage principale, elle a un ex pas très sympa ou elle est dans une relation pas très équilibrée » ou comme ça. Et moi, j'étais là « Ah bah, c'est des violences conjugales !» Mais ça, je sens que, en fait, c'est le prix à payer, si on veut, de pas vouloir rentrer dans une description très didactique, de dire « Bah voilà, ce qui s'est passé, etc. » Et on en a beaucoup parlé. Et moi, à un moment donné, je me disais, je crois que je suis prête à ça. Je crois que je suis prête à ce que certaines personnes passent à côté. Peut-être aussi pour permettre à ce que... si ça peut permettre à certaines personnes qui ont vécu des violences de lire un livre qui traite de ça, mais sans trop d'explicite, eh ben tant mieux. Voilà. On va dire que c'était ça, le but. Et tant pis si... à côté. Et par ailleurs, je trouve que ça dit beaucoup si on se rend pas compte que... Voilà. Pour les personnes ici qui l'ont lu... pour moi c'est assez drôle parce que pour moi c'est très explicite. Puis, déjà mon éditrice elle me disait non vraiment non il faut que tu en mettes plus et je me disais ah ouais ok et donc là j'avais l'impression d'avoir mis le max et puis en fait quand je vois les retours je me dis ah oui en fait on n'a pas tous et toutes les mêmes expériences et le même référentiel mais
Oui, et d'autant que ton personnage, Erin, va passer par la case MeToo réseaux sociaux. Ouais. Donc, mais sans qu'on lise, on n'a pas ce qu'elle a écrit, mais on sait qu'elle l'a écrit. Ouais. Et l'endroit de la réception de ce message était pour moi hyper intéressante, dans le sens où, en fait, elle écrit, il y a des likes, il y a quelques « je te soutiens, je te crois », et puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Et en fait, elle va se rendre compte, au fur et à mesure d'essayer de dire ce qui lui était arrivé, que c'est très malaisant pour les gens. Ils ne savent pas comment accueillir en fait, cette parole-là, comment réagir. Donc, il y a une tentative évidente de certaines de montrer un soutien, mais il y en a aussi beaucoup qui ensuite passent à autre chose, ouais. En fait. Sauf qu'Erin, elle reste avec.
Et oui.
Le dire n'a pas suffi.
Ouais.
Il y a vraiment ce truc-là, en fait, de l'après MeToo, hashtag MeToo, où on a eu une profusion malheureuse, évidente, de témoignages, mais on fait quoi après ?
Oui, on en fait quoi ? Et moi, c'est un passage qui est effectivement, j'aurais peut-être plus développé, mais en gros, moi, je me disais, mais c'est incroyable, on continue encore à faire des appels à témoignages, à lancer des nouveaux hashtags, etc. C'est comme s'il y a une volonté tout le temps de vouloir lire des récits de traumatiques. Moi, je ne compte même pas le nombre de fois où on m'a demandé de raconter, de raconter, de raconter. Et en fait, bon, après, on est solos avec ça. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de le sortir, mais une fois qu'on l'a sorti, voilà, tout le monde l'a lu, etc. Et il ne se passe rien. Quand je dis « il ne se passe rien », ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas retweeté. Ça veut dire que soit il n'y a pas de... je sais pas, l'entourage dit pas « Ah, mais est-ce que ça va ? Est-ce que tu veux que je t'amène un gratin de pâtes ?» Enfin, je veux dire, ça peut être... Moi, je suis très focalisée sur la bouffe, il faut savoir, mais ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, je me dis, ça ne fait pas de vague. Moi, j'avais beaucoup dit après Les Orageuses, c'était, je me disais, voilà, j'écris un livre sur le viol, je ne cache à aucun moment donné le fait que c'est en partie tiré de ma vie. Je veux dire, je fais des interviews, des trucs, des machins, mes parents l'écoutent, mes proches l'écoutent, ma sœur l'écoute, mes potes, etc. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui se dit à un moment donné, bah dis donc, j'espère que ça va. Jamais, jamais. Et je me dis, ah ouais, c'est intéressant quand même, ce qui se passe au niveau de la parole. C'est-à-dire qu'on me dit, ah, c'est vraiment super d'avoir publié un livre et tout. Mais bon, donc je me suis dit, ok, donc ça suffit pas. Et moi, je suis quelqu'un qui a multiplié les... Enfin, voilà, j'avais témoigné sur France Culture il y a bien longtemps avec les débuts de Charlotte Bien-Aimée. Enfin, voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui a caché ses... Ou qui a pas voulu, ou qui a eu des difficultés à en parler, en tout cas, ça a été. Bon, la première fois, ça fait du bien, mais ensuite, on se dit, ouais, c'est marrant quand même. C'est comme si on nous entend pas. Et je crois que sur cette histoire de MeToo, les multiplications comme ça de demandes, en fait, que les victimes parlent, voilà, mais par ailleurs, c'est les grosses campagnes gouvernementales, c'est toujours de dire, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Oui, mais bon, une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai bossé au planning familial pour vous dire... Le planning, alors moi j'étais au planning de Saint-Denis, à Paris, elle racontait que quand il y a eu ces injonctions un peu de parler, mais en fait elle disait, on ne peut rien en faire. Il n'y a pas de place dans les consultations pour le stress post-traumatique, il n'y a pas de place en CMP, il n'y a pas de place en foyer d'hébergement d'urgence. Bon bah, une fois que les gens ont parlé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce qu'on en fait de cette parole? Et bon, je crois que bon, c'est deux problématiques différentes, hein, la problématique de l'entourage et la problématique institutionnelle. Mais c'est deux endroits où j'avais envie qu'on s'interroge sur oui, parler, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et typiquement, dans ce livre, Erin, elle parle. Alors, elle dit peut-être pas forcément les bons mots. Elle formule pas forcément, elle dit pas forcément exactement ce qui se passe, mais elle dit les choses quand même clairement à différentes personnes. Et en fait, elle se rend compte que sa parole, elle est pas spécialement entendue. En tout cas, il se passe rien. Et ça, c'est ça aussi qui provoque ce sentiment de solitude, et c'est ça que j'avais envie d'explorer.
Mmh. Oui, et il y a quelque chose vraiment en plus, parce que quand on découvre Erin, elle est déjà à un endroit de l'histoire plus avancé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle va constamment être dans sa tête, et donc elle est déjà en train de vivre des choses d'après la fuite, alors qu'elle nous raconte ce qui s'est passé avant et ce qui l'a amenée là. Donc ce qui fait qu'on sent bien... En fait, que dans une vie quotidienne, ou environ quotidienne, parce que comme tout est nouveau pour elle, on sent bien qu'elle reprend ses marques, etc. Mais pour autant, dans quelque chose qui n'est pas exceptionnel, comme je pars à l'autre bout du monde, je ne comprends pas la langue, ou des choses comme ça, elle est juste dans un endroit qu'elle a pu connaître environ, et elle y retourne. Ben, y a des choses qui lui reviennent petit à petit, en fait, des souvenirs. Et on sent bien que c'est par ce vide-là qui l'entoure, par une expérience où il n'y a pas 1000 personnes, il n'y a pas 1000 activités, il n'y a pas le stress du quotidien, le bruit des voitures, etc. Elle est en plein milieu de nulle part, que les choses se rappellent à elle. Et ce traitement-là, ça permet aussi de parler du temps, en fait. Et je crois même qu'elle a une phrase à un moment donné de cette notion du temps qui part un peu dans tous les sens, de se dire qu'il lui faut tout ce temps-là bien étendu pour reprendre main prise, en fait, sur ce qu'elle a vécu. Parce que même si elle a dit, même si elle a agi en partant, ça n'a pas suffi pour qu'elle comprenne à sa façon. Pas avec des livres, pas avec des spécialistes qui essayent de lui mettre du doute, pas avec... Non, non, c'est comment elle l'a vécu dans son corps, en fait, cette affaire. Et ce temps-là, il est exprimé vraiment, mais au pas à pas. Et t'as comme une double narration. T'as construit, en fait. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de tes deux personnages. Mais en fait, ils sont un peu là, quand même.
C'est vrai.
Mais en jouant sur le temps. Elle est en ping-pong avec elle-même, en fait.
Ouais. J'aimerais bien que mon éditrice t'entende parce qu'elle m'a vraiment dit « Non, mais tu peux pas faire tout le temps des flashbacks. » J'étais là « Si, si, si. » C'est exactement ce que je voulais faire. Mais oui, je pense que moi, la question du temps, je la trouve... En fait, je la trouve même fondamentale. sur la question des violences. Notamment parce que j'ai l'impression que c'est très difficile à entendre, à comprendre, à envisager que les conséquences peuvent, pas toujours, mais peuvent être sur des temps très longs, les conséquences des violences. Alors oui, c'est pas toujours le cas et on saura jamais pourquoi certaines personnes ça va prendre plus de temps que d'autres. C'est comme ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui agace en fait souvent le fait que déjà que ça soit pas linéaire. Franchement, en vrai, la société, elle aimerait trop que sur la question des violences, bon bah ça arrive, c'est dur, mais après ça va mieux. Voilà. Et puis à la fin, on a tout oublié. Et en fait, cette déconstruction là, elle est encore difficile à faire, mais je trouve dans tous les milieux hein, par ailleurs. Moi, c'était très tardivement qu'on m'a dit, mais en fait, tu sais, il risque d'avoir des hauts et des bas. Et de découvrir que ça ne faisait pas de moi quelqu'un de très bizarre ou de particulièrement atteint, juste c'était comme ça. Ça, je me suis dit, ah oui, c'est fou qu'on en parle très peu. Et c'est vrai qu'on aimerait tellement que les gens oublient. En tout cas, parce que voilà, le truc qu'on m'a souvent dit, c'est passer à autre chose. Et de fait, des fois, c'est pas possible. Et comme tu dis, des fois, on a besoin. Les temporalités sont différentes. Et des fois, on a besoin de faire quelque chose qui nous fait du bien à un moment donné, et à un autre moment, on aura encore besoin de faire quelque chose qui sera peut-être différent. Et c'est pour ça on m'a demandé à une rencontre si les orageuses et hors d'atteinte, c'était l'inverse ou le contraire, ou en gros, est-ce que j'ai écrit un livre où la personne, elle est seule avec son chien et elle fait pas de vengeance, ça voulait dire que je reniais un peu la violence d'avant. Je me disais, mais c'est marrant, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de dire, bah, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et les choses peuvent être aussi mises en place à plein de moments différents dans nos vies et peuvent nous correspondre à des moments très différents. Et ça, je pense que c'est important, la question du temps. Mais aussi parce que quand on se retire du monde pendant un certain temps, on a énormément de temps pour réfléchir. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là que se mettent des choses en place, que tout d'un coup, effectivement, on se rappelle de pas mal de choses, on fait des liens. Espèce de thérapie accélérée, un peu brutale, mais ouais.
Et parce que là, donc, de ce fait, tu me tends la perche sur un petit lien entre les orageuses et hors d'atteinte, parce que malgré tout, oui, il y a une tendance. Enfin, et c'est vrai, j'y avais même pas pensé, je dois vraiment l'avouer. On pourrait être tenté de dire d'un côté, il y a la vengeance collective et de l'autre côté, il y a la réparation en solitaire. Mais en vrai, il y a quand même dans la vie d'Erin, à un moment donné, un petit détail qui n'en sera pas un, parce qu'il va lui revenir en tête. Mais c'est ce groupe de filles qui est en dessous de son balcon quand elle déménage la première fois. Donc elle est encore à Paris, mais ailleurs. Seule toujours, mais ailleurs. Et c'est là où vraiment moi le clin d'œil orageuse m'a fait beaucoup très plaisir, où elle lit en fait sur un frigo, je crois sur une affiche, il te frappe, on te croit, et quelqu'une a réécrit en dessous et on réplique. Et là j'ai eu tout l'imagier, enfin toutes les pièces du puzzle des orageuses en tête, en me disant mais ça tombe, les orageuses c'est l'histoire de ce groupe là en fait. Et ça, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait une intrigue dans une intrigue et que pour des personnes qui n'auraient pas lu Les Orageuses, entrer par Hors d'atteinte, c'est possible aussi.
Oui,
c'est pas obligé de te suivre dans cet ordre de parution, quoi.
Bah, ça, c'est sûr. Je crois aussi que après avoir sorti Les Orageuses, j'ai beaucoup réfléchi du coup à ce qui était dedans et je me disais, bon, il faut quand même que je sois honnête sur le fait que tout le monde n'a pas accès à une bande de copines qui est prête à aller faire des vengeances, voilà. Ce serait super, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et je trouvais ça assez juste de lui... En fait, de montrer ce personnage qui... ben non, en fait, son entourage, il ne va pas aller tabasser la gueule du gars. D'ailleurs, elles ne font pas ça dans les orageuses.
Non, voilà.
Mais voilà, en tout cas, de dire, bah, tout le monde n'a pas un entourage qui réagit au quart de tour. D'ailleurs, c'est même plutôt une minorité. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça produit ? Tout ça. Mais oui, je pense que c'est marrant, en fait, que quand tu m'as dit « Ah, mais j'ai vu qu'il y avait des clins d'œil », j'ai dû y réfléchir, de me dire « Ah bon, est-ce qu'il y en a ?» Et ça m'est déjà arrivé, parce que donc, le personnage de la chienne s'appelle Tonnerre. Et pour vous dire, la semaine dernière, dans une rencontre, quelqu'un m'a dit « Donc, c'est en hommage aux orageuses ?» Et je n'avais pas fait le lien. Et donc, j'étais là « Oui ?» Et je me suis dit, ah oui, quand même, moi, je suis quelqu'un qui peut aussi ne pas voir des choses assez évidentes. Donc probablement que aussi, Les Orageuses a infusé dans le deuxième sans que ça soit vraiment très conscient toujours.
C'est très bien aussi.
Ouais.
C'est très bien aussi. Mais d'autant que, en fait, on pourrait penser que le vrai lien, il est sur cet endroit de vengeance. Le clin d'œil du poster réécrit est très chouette. Mais en vrai, ce que dit Erin à ce moment-là, c'est non pas un besoin... Moi, je ne l'ai pas entendu comme un besoin de vengeance, mais plus comme un besoin de protection.
Oui.
C'est de se sentir faire partie du gang et de se dire d'avoir d'autres personnes, d'autres femmes qui veillent sur elle. Parce que toute la question, comme je disais, de la peur, en fait, c'est aussi de se rendre compte que... À partir d'une situation de violence conjugale, ici, pour cette histoire-là, en fait, la vie entière en est changée. Et on va bien comprendre qu'Erin, il n'y a pas eu que cette situation-là.
Ouais.
Qu'en fait, il y aurait quelque chose du passé qui font que depuis son enfance, elle a dévié. Elle est à un moment où, en fait, la peur, c'est son quotidien. Mmh. Le fait de sursauter dès qu'il y a un bruit, de guetter derrière quand quelqu'un passe. Et cet endroit de vouloir être protégée... Et on comprend bien qu'en fait, elle n'a pas cette ressource-là du tout. Et que ça va venir en résonance avec toute la discussion sur la solitude. De se dire, en fait, elle quitte un endroit d'extrême solitude dans une ville énorme comme Paris, où elle n'a pas son gang, où elle n'a plus, en fait, le couple qui l'avait enfermée, pour aller complètement en plein milieu de nulle part, où il n'y a vraiment personne. Là,
en Ariège,
donc.
Hein.
En Ariège. Et en fait, la discussion, elle va juste être à deux endroits de solitude différentes, à deux peurs différentes. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux, de se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a violence, etc., qu'à jamais la peur est la même et qu'à jamais la solitude sera la même. C'est qu'elle va appréhender, elle va changer en fait son regard de place sur ces deux émotions à partir du moment où elle va accepter... de les décortiquer, parce qu'elle va les décortiquer quand même. Elle va aller vraiment, pourquoi j'ai peur là, à ce moment-là? C'est quoi ce bruit? Est-ce que vraiment c'est justifié? Enfin, il y a eu un travail vraiment de très grande finesse. Tu l'avais vu... Enfin, oui, après, je ne sais pas dans quelle mesure, comme tu sembles aussi parfois être traversée par tes histoires et ton écriture. J'ai dit, mais est-ce que pour toi, c'était un endroit vraiment précis dans ta tête de cette déconstruction-là de l'émotion 1 pour aller vers l'émotion 2, même si elles ont le même nom, solitude ou peur? En fait, il fallait montrer qu'il y avait des référents autres possibles.
Je pense que c'est deux cas différents pour la solitude et pour la peur, et pour l'angoisse d'ailleurs. Mais pour la solitude, oui, je pense qu'il y avait vraiment cette idée de mettre les deux choses en parallèle, de faire la transition entre ces deux formes de solitude et de l'écrire. Sur la question de la peur, mais bon, c'est pas un mystère. Moi, j'écris aussi beaucoup à partir de ma vie. Et je crois que je me suis posé la question de ça quand... j'ai commencé à écrire le livre, puis j'ai déménagé hors de Paris, comme je vous disais, roman d'anticipation. Et quand j'étais en train de l'écrire, je me souviens qu'il y a eu des moments où j'étais au milieu de... Donc la résidence, en plus, que j'ai eue était vraiment à Gréoux-les-Bains, dans un endroit hyper chouette, mais très isolé. Et tout d'un coup, j'ai senti... Enfin, il y a eu vraiment un moment donné où je me suis dit, ça, je veux l'écrire. Ce moment où les bruits autour n'étaient plus des menaces, mais étaient des objets de curiosité, où je me disais, ah tiens, c'est quoi ? Et ça a été quelque chose qui m'a tellement changé le quotidien que je me suis dit, bah, ça, c'est intéressant d'aller chercher ce truc d'être curieux de l'environnement sans que l'environnement soit forcément tout le temps une menace. Ouais, je crois que ça, c'était important. Après, dans ce livre, j'ai l'impression que la question de la santé mentale est plus globale que juste la question de la peur. Elle peut pas... Donc, Erin, quand elle arrive en Ariège, c'est pas du tout une success story. Hein. Elle débarque pas en Ariège en disant « Ok, je vais faire toutes les montagnes de la Terre, ça va être génial et tout ça. » Elle galère. Et elle galère notamment avec la mise en mouvement. Notamment parce que, moi, je m'étais dit, mais en fait, on parle pas assez de l'influence de l'angoisse. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très angoissé, c'était très important que je mette de l'angoisse là-dedans. Parce que je voulais décrire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de... On a l'impression de résumer des fois l'angoisse à... on est un peu stressé, on est un peu... Mmh. Voilà. Bon, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout de cet ordre-là et qui a des symptômes très physiques, notamment. Et je crois que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment... quand on a une impossibilité de bouger à cause de la santé mentale, en fait. Quand c'est un mix entre angoisse, peur, pas mal de choses, mais que ça provoque une paralysie, voilà, où elle peut pas aller marcher. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, en fait, d'aller chercher. Donc, c'est presque plus au-delà de la peur. Mmh. Aussi, la question juste de... elle a une santé mentale de galérienne, quoi. Mmh. Et ça, je trouvais important d'aller... En fait, d'aller explorer ça. Moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris à connaître et à accepter trop tardivement. Et aussi à accepter comme étant une vraie conséquence de ce qui avait pu se passer. Enfin, voilà, que c'était pas juste que j'étais... Enfin, des fois, je sais pas, peut-être... Moi, je vis dans un monde spécifique, mais des fois, j'ai un peu l'impression que l'angoisse, c'est quelque chose qu'on banalise beaucoup, qu'on considère que c'est pas si grave et que c'est souvent un truc de meuf qui s'en fait trop. Bon, je sais pas si vous avez déjà eu des crises d'angoisse. Je suis sûre que dans cette salle, il y a des gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse, mais c'est souvent plus que ça. Et c'est d'ailleurs assez frustrant que les gens ne comprennent pas l'étendue de ce que ça peut produire comme mal-être, comme problème dans la vie quotidienne, etc. Donc voilà, moi je crois que je rajouterais l'angoisse à ton duo d'émotions. Et après, peut-être que ce que je rajouterais, c'est que dans le livre, il me fallait quand même une tierce personne pour qu'elle se sente obligée de... Parce qu'en fait, bon, quand on n'arrive pas à bouger et qu'on n'arrive pas... Des fois, on ne peut pas se pousser à aller marcher dans la montagne. Bon, elle a un chien, donc en fait, elle est obligée. Je veux dire, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont des chiens, mais en fait, on peut pas les laisser dedans tout le temps. À un moment donné, il faut qu'ils fassent pipi, par exemple. Et donc, ce mouvement-là, il est obligatoire. Et ça, je pense que c'était important de le mettre dedans, parce que c'est voilà, elle a pas besoin d'un groupe de potes, mais elle a quand même besoin d'une chienne, voilà, au moins pour démarrer le mouvement et pour avoir un prétexte et pour pouvoir avoir. Bon, par ailleurs, elle a un chien assez gros, donc. Qui va évidemment la protéger. Mais pas du tout, c'est un chien très peureux. Mais, mais en tout cas, il y a ça qui se passe. Et ça, j'avais besoin, quand j'ai écrit en résidence à Gréoux, il y avait deux chiens. Et je crois que j'étais émerveillée de l'idée que je pouvais aller me balader à la tombée de la nuit. Et que j'avais ces espèces de deux chiens comme ça, là, qui me répondaient pas du tout. Donc franchement, ils auraient pu se barrer et il aurait pu m'arriver un truc. Vraiment, je pense qu'ils auraient été en mode « Salut !» Mais en tout cas, dans mon imaginaire, je me disais « Ah oui, ok. Ah, mais ça, c'est assez agréable, en fait. C'est une présence très tranquille, voilà. Ils reniflent tout. Et puis moi, je me dis « Bon, bah, si... En tout cas, par ailleurs, s'il se passe un truc, ils me préviendront. »
Mais c'est le rapport au monde vivant, que ce soit par les animaux, par les arbres, la montagne, les crêtes, la neige. Il y a quand même quelque chose d'un lien qu'elle renoue très très fortement. Et elle dit même à un moment donné qu'elle a l'impression que les odeurs sont plus vives, que les... Enfin, il y a plein de choses qu'on entend comme elle vit plus fortement, en fait, malgré... ce qui lui est arrivé et qui est très dur et fort aussi, en fait, elle se vit différemment là-bas. Et donc, tout son petit monologue intérieur de « là, il faut que j'y aille, là, il faut que je sorte, là, je me demande si... et si je mets ça, est-ce que le chat va venir... est-ce que je vais y arriver ?» Enfin, en fait, elle est constamment en train de... Tout ce qu'elle vit, elle le pose, en fait, elle le... On a l'impression, en fait, que tout est en jeu. Mais parce qu'en fait, elle en est à ce point-là. C'est que c'est la sortie, et quand les premiers flocons de neige arrivent, l'émerveillement, pas du tout, en fait. C'est, non mais je vois plus mes traces de pieds, comment j'ai retrouvé, est-ce que j'ai... Et là, l'angoisse commence à arriver. Mais je trouvais que c'était intéressant, d'autant plus aujourd'hui, en fait, dans l'urgence climatique, le rapport au vivant qui est quand même assez particulier dans la façon dont les médias en parlent, etc., de se rappeler qu'en fait, ça peut être aussi un endroit du monde dans lequel on prend part. En fait, Erin n'est pas un objet extérieur de cet espace. Elle en fait partie, en fait.
Ouais, ouais. Bah, ça, c'est tout à fait vrai. Après, donc moi, j'ai grandi à la campagne. Je pense que... Enfin, entre la campagne et la montagne, mais... je pense que c'était important pour moi de parler de ce rapport-là au vivant. Je me rappelle... Donc, moi, je suis une grosse fan d'un livre qui s'appelle Wild, d'une nana qui s'appelle Cheryl Strayed, bon, qui a écrit ce livre. Et il y a eu un film, peut-être certains ou certaines d'entre vous l'ont vu, avec Reese, je vais prononcer très mal, Witherspoon. mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans ce livre, et dans ce film surtout, il y a un moment donné où la mère de l'héroïne lui dit, je vais faire une traduction vraiment un peu dégueulasse, mais ça va être ça, on peut choisir tous les jours d'être en face de quelque chose de beau. Il y a un coucher de soleil et un lever de soleil tous les jours. Et moi, c'est un peu cheesy, mais ça m'a beaucoup porté de me dire, en fait, même quand ça va pas, je peux décider de voir ça et ça va être toujours, ça ne déçoit quasiment jamais. Pour moi, c'est la même chose avec les montagnes, de me dire, je sais qu'il y a eu des moments dans ma vie où quand ça allait pas, de pouvoir avoir accès à cet environnement-là et de me dire, en fait, ça ne bougera pas. Enfin, en tout cas, de ma génération, voilà, sorry pour les autres, mais il y a vraiment ce truc-là de me dire, mais ça, on peut pas me l'enlever, c'est pas un endroit où on peut m'exclure, on peut m'empêcher, de, voilà, je vais pouvoir y avoir accès, et ça me fait vraiment du bien, et c'est quelque chose dans lequel j'ai le droit d'être autonome. Et la montagne, plus que la campagne en l'occurrence, mais pourquoi ça se passe en montagne et pas juste, je sais pas, dans le Perche, c'est aussi parce que il y a quelque chose de l'ordre de la gestion du risque en montagne, d'aller... En fait, on peut aller se faire peur, on peut choisir le degré d'intensité de risque qu'on veut. C'est un lieu vraiment d'autonomisation, notamment des meufs, hein, où on peut aller voir de quoi on est. En gros, se mesurer un peu à soi-même, sans faire des trucs de dingue, hein, vraiment juste... Et ça, je crois que c'était un endroit important, en fait, d'aller explorer cet endroit-là du vivant, d'aller explorer un endroit pile qui permet quand même de voir ce que le corps est capable de faire, qui est un endroit où il faut quand même être un peu à son affaire et se sentir solide, en fait. On peut pas tellement aller en montagne si on doute tout le temps, en tout cas on peut pas aller très loin, j'en ai fait longuement l'expérience, mais à un moment donné il faut décider de se faire confiance, il faut décider que... sinon, on n'y va pas seul, en fait. Et si on veut aller en montagne seul, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Savoir quel chemin on va, quelle est la météo, qu'est-ce que je prends dans le sac, etc. Enfin, parce qu'il y a des risques concrets. Et oui, je pense que ce rapport-là au vivant me semblait important d'aller... Ouais, d'écrire. En plus, voilà, moi, je voulais plus écrire la ville. J'avais vraiment envie d'écrire autre chose. Et ça a été par ailleurs, c'est un vrai apprentissage, hein, donc ça veut dire, moi, j'ai fait beaucoup de rando avec un carnet où après je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai vu exactement, c'est-à-dire apprendre à décrire le vivant et la nature, pas juste en disant c'était vert, c'était joli, c'était une montagne, par exemple, il fallait trouver un peu, oui, ok, c'est une montagne, mais qu'est-ce que c'est, c'est une arête, c'est un pic, c'est un vallon, enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à écrire, j'en avais lu beaucoup, mais et voilà. Après, je crois que moi, ce qui me faisait le plus peur dans la sortie des orageux, hors d'atteinte, c'est un joli lapsus, mais c'était que je me disais, les gens vont me demander mon rapport aux animaux, et en fait, je n'ai aucune réponse à part un truc vraiment d'enfant de 4 ans qui dit, moi, j'aime beaucoup les animaux. Et vraiment, je me disais, mais il faut absolument arriver à développer ça, parce que je vois bien que c'est un endroit où je n'ai pas encore les mots. Donc récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle « Son odeur après la pluie », qui est, franchement, j'ai tant pleuré. Mais donc, l'histoire, c'est un roman assez, c'est pas un court roman, assez long, voilà, sur un gars en Savoie qui raconte sa vie par le prisme de la vie qu'il a avec son bouvier bernois. Et il tient 300 pages en décrivant ça sans être, cucu ou dans des banalités. Et je me disais, ouais, ça, c'est quand même un sacré défi, parce que moi, je vois, j'arrive même pas à répondre à une question sur le vivant sans être... voilà, donc je vois bien que j'ai pas encore développé la langue sur mon rapport au vivant. Je peux dire que c'est sûr que quand je vois un chamois, quand je vais me promener le matin avec mon chien, ça me fait ma journée et que rien ne pourra remplacer ça. Mais je peux pas encore te décrire exactement le rapport que j'ai à ce vivant-là. C'est très frustrant, d'ailleurs. Mais je crois que j'ai appris à l'accepter, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, je dis que j'adore regarder les oiseaux, et ça peut être que ma réponse. Voilà. Et j'espère un jour que je vais pouvoir agrandir ma langue là-dessus.
Bah, en tout cas, là où c'est drôle, dans la mesure où en plus tu parles de Hors d'atteinte comme un roman d'anticipation, c'est que Erin, elle t'a d'une certaine manière mise sur la voie de beaucoup de choses aussi.
Non, mais franchement, une gossure. Ouais. Mais d'ailleurs, ça a créé beaucoup de. Je pense, de. Comment on appelle ça ? Pas d'incompréhension, mais de malentendu. C'est que comme. Donc, moi, j'ai un Instagram qui est public et où je publie beaucoup de ma vie quotidienne et qui est très passionnante, c'est-à-dire, c'est mon chien et moi. Et des montagnes, voilà. J'ai l'impression que ça va intéresser tout le monde, visiblement pas trop, mais je crois que du coup, quand Hors d'attente sort, les gens se disent ah, mais du coup, elle a écrit sa vie. Et ça a été vraiment tout un truc de dire et non, en fait, c'est arrivé bien après. Mais donc, ça me fait un rapport un peu étrange à Hors d'attente, notamment aussi parce que il se trouve que j'ai pas du tout un chien aussi parfait que celui qui est dans Hors d'atteinte. Voilà. Donc j'ai vraiment écrit. Alors ne faites pas ça. N'écrivez pas sur la relation avec un chien avant d'en avoir un. Parce qu'après, vous vous dites, peut-être j'aurais pu rajouter quand même deux, trois éléments de réalité. Mais enfin, non, je pense qu'il y a des gens qui ont des chiens super. Qui ressemblent. Enfin, le mien est super, pardon. Je suis en train de... pardon, tout net. Mais voilà, je crois que. Ce rapport-là, du coup, que j'ai à cette héroïne a changé, en fait, au fil de l'écriture. Et je crois que je pensais pas que la sortie me mettrait autant à nu, en fait. Me ferait sentir aussi vulnérable. Parce qu'en fait, je pense les murs, entre guillemets, ou le mur de la fiction qu'il y avait au moment de l'écriture, bah, a un peu été dynamité maintenant. Donc je passe mon temps à dire c'est un roman, hein. Enfin voilà, moi j'habite pas toute seule et tout, mais je vois bien que c'est un peu plus difficile que les orageuses où j'arrivais bien à dire bah vous ne saurez pas ce qui est vrai ou pas. Enfin voilà.
Bon, tu peux encore.
Parce que je faisais pas de story d'Instagram, si oui, j'allais voilà. Me venger quoi.
Tu peux complètement faire des fausses stories aussi. Hein. Oui. Tu peux fictionner ta vie je peux autant
tout à fait,
que tu veux.
Ouais. Hein. Ça demanderait beaucoup de boulot et j'ai pas le temps, mais oui.
En tout cas, merci beaucoup pour ce roman. Que j'ai beaucoup apprécié et je marchais moi-même pendant que je le lisais. Et l'expérience a été assez troublante parce que je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. Mais vraiment pas. J'avais refusé en fait qu'on m'en parle avant de le lire, comme j'ai la chance de pouvoir le faire de temps en temps, puisque je les ai suffisamment en amont pour que personne ne soit au courant qu'ils vont arriver. Et je le lisais et je me disais « Waouh !» Tu es en train de vivre ce roman, c'est trop bizarre. Mais c'était très beau et je me le souhaite tous les étés, même si je ne vais pas cette fois-ci te dire « Mais alors, la suite, alors ?» Puisque autant te laisser aussi le temps de cette création.
Exactement. Et en plus, maintenant, je trouve que c'est important de rappeler, quand on me pose la question « Et donc, le troisième ?» Je dis « Les gens, ça coûte de l'argent d'écrire. » Et en fait, moi, j'ai aussi un... Enfin, il y a une économie capitaliste de la création qui fait que, en fait, c'est difficile de créer tout le temps. Mm-hmm. Et qu'en plus, de plus en... Enfin, moi, j'ai l'impression un peu que je vais dire tous les gros mots d'un coup, mais que le libéralisme infiltre vraiment très fort l'espace de création. Et donc, on devrait toujours produire plus. Voilà, il faut... voilà, maintenant, il faut écrire des bouquins, il faut en écrire plus, parce que sinon, tu perds ta... Enfin, et en fait, c'est pas possible. Je veux dire, moi, plus on me met la pression, par ailleurs, moins j'ai d'idées, donc c'est vraiment l'enfer. Mais je crois qu'au début, j'avais très envie de dire « Bah oui, mais j'ai commencé un troisième, hein, je vous assure. » Et tout. Et puis maintenant, je me dis « Bah, peut-être je vais le laisser là où il est, et puis on verra bien quand il sera terminé. » Parce que, voilà, tant qu'on n'a pas un revenu universel... on va prendre le temps de faire aussi d'autres choses.
C'est ça. Et on a quand même déjà deux superbes romans.
Voilà, franchement.
Donc, une fois que tout le monde les aura lus, on pourra se poser la question du troisième. Peut-être qu'on va faire ça.
C'est un très bon plan.
Merci beaucoup, Marcia.
Bah, merci beaucoup à toi.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Marcia Burnier à l'occasion de la publication de son roman Hors d'atteinte aux éditions Cambourakis. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. La vie n'est pas là,
que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchi Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.